Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Mario Dumont et Vincent Desureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
Cube Radio.
Alors, l'Université de Sherbrooke s'est intéressée au phénomène des théories du complot. Il semble qu'il y en avait à l'époque de la grippe espagnole. Puis bon, une fois la grippe espagnole passée, il s'est avéré que ces gens-là se sont rendus compte que c'était tout faux, puis ça s'est estompé. Il y en a encore beaucoup dans cette pandémie. Il y en avait avant aussi. Marie-Ève Carignan est professeure au département de communication à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Mme Carignan.
Bonjour.
Bon, et quand on voit votre étude, qu'on compare avec d'autres pays, on se rend compte qu'au Canada, finalement, on n'est pas tellement, pas si prisonnier des théories du complot.
On voit que dans notre étude, dont les résultats ont été collectés en début juin, il faut quand même le préciser, la situation a quand même peut-être un petit peu évolué depuis. Là, on va avoir une deuxième vague de sondages bientôt. Mais on voit quand même que les thèses conspirationnistes sont bien présentes au Canada. Là, les gens qui présentaient des accords importants aux énoncés conspirationnistes qu'on leur a soumis sont environ dans le nombre de 18 % des répondants. Donc, une personne sur 4 ou 5 croit à ces thèses-là au Canada. C'est quand même beaucoup, mais c'est beaucoup moins que dans d'autres pays. Alors, comme on dit, quand on se compare, on se console. La situation est plus inquiétante ailleurs dans le monde, tout à fait.
Mm-hmm. Ouais, aux États-Unis, entre autres, là.
Aux États-Unis, en Angleterre, aux Philippines, par exemple, c'est les pays où le pourcentage est beaucoup plus élevé.
Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle la théorie du complot? Parce qu'évidemment, quand je regarde, par exemple, nos manifestants anti-masques, on va pouvoir en trouver à travers ça des gens qui ont un propos raisonnable, c'est-à-dire qu'ils sont contre le confinement, ils trouvent qu'on allait trop loin. Ils vont dire, par exemple, que la Suède s'y est mieux pris, qu'ici, on va trop loin. Pour ceux qui ont raison sur le plan des faits, mais ce sont des choses qui sont débattables. Puis à l'autre bout du spectre, vous avez des gens qui ont plus aucune forme de contact avec la réalité, là, qui vivent, en fait, qui font peur, tu sais plus trop qu'est-ce qu'ils pourraient poser comme geste, mais ils sont totalement désinformés, déconnectés, croient à des complots. Où est-ce que vous tracez la ligne pour dire que des gens là commencent à adhérer aux théories du complot, là?
Vous avez raison, c'est important de faire la nuance. Pas tous les gens qui participent au mouvement anti-masque ou à des manifestations qui sont des adeptes des théories du complot, vraiment pas. Il y a différentes réalités là-dedans, puis des degrés aussi d'adhésion. Mais quand on parle de théories du complot, on pense vraiment à des gens qui croient qu'il y a un système organisé de conspiration qui est caché.
Derrière la pandémie, là.
Exactement, puis qu'il y a des grandes autorités ou des grandes puissances derrière cette pandémie-là sont en train là, de nous cacher la vérité parce qu'eux ont des intérêts cachés, souvent économiques et politiques derrière ça. Et donc, tout ça relève d'un grand complot qui implique vraiment beaucoup d'acteurs. Là. C'est ça, la théorie du complot.
Mais des gens croyaient ça à toute époque. Là. Des gens croyaient ça à propos du 11 septembre, des attentats du 11 septembre. Des gens ont cru ça. Dès qu'un événement prend beaucoup de place dans les médias, beaucoup de place dans l'actualité, on dirait qu'il y a une partie de la population que c'est comme trop fort. C'est comme trop fort pour eux, trop fort pour leur esprit, un peu épeurant. Moi, en tout cas, ma thèse, c'est que l'humain a beaucoup de misère à vivre sans réponse. Par exemple, quand on faisait des entrevues dans nos émissions en mars, là, puis qu'un docteur honnête te disait, mais écoute, le virus, on le sait pas, on le connaît pas, on le découvre. Ça, il y a des gens qui s'insécurisent de dire, comment ça se fait qu'on n'a pas toutes les réponses? Donc, quand on n'a pas toutes les réponses, parce que les gens intelligents et documentés attendent de faire les études, puis attendent de voir comment le virus va évoluer avant de donner une réponse avec certitude, il faut l'obtenir, la certitude. Mais quiconque qui s'avance avec des réponses toutes faites, là, tu sais, des réponses de boîte de Cracker Jack, là, mais ça attire, là, tu comprends? Parce que ça fournit une réponse devant l'incertitude, ça fournit une réponse. Il y a un coupable, il y a une cause, il y a une chaîne des événements, puis voici une explication satisfaisante pour l'esprit.
Mais tout à fait, vous avez raison, c'est exactement ça. D'abord, ce qu'on a vu, c'est que c'est pas des thèses nouvelles. Les thèses complotistes, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir, mais les réseaux sociaux sont un facteur qui permet là, de partager ces thèses-là beaucoup plus facilement, plus rapidement. La différence, c'est pas tant dans l'apparition de ces thèses-là qui existaient déjà avant. On voit d'ailleurs beaucoup d'affirmations que les gens croient sur l'implication de l'industrie pharmaceutique, par exemple, ou la création du virus en laboratoire, qui était déjà là pour parler, par exemple, du sida ou de l'Ebola là, au sein des mouvements conspirationnistes. C'est pas nouveau. Mais cette vitesse d'adhésion-là, surtout pendant la COVID, des gens étaient confinés chez eux, hyper présents sur les médias sociaux, donc ils avaient beaucoup de temps pour se promener.
Ouais, trop de temps pour lire trop de choses. Hein?
Et là, c'est la vitesse d'adhésion qui était vraiment surprenante. En quelques jours, quelques semaines, des thèses qui, pour d'autres maladies, ont mis des années à s'installer, étaient déjà installées. Donc, c'est cette vitesse-là qui est vraiment particulière dans ce cas-ci. Et vous avez raison, il y a aussi le fait que beaucoup de gens n'étaient pas capables d'accepter le fait que des scientifiques leur disaient « on n'en a pas de réponse pour l'instant, on ne sait pas s'il y a un médicament, on n'a pas encore trouvé de traitement, on manque de données probantes ». Et malheureusement, une grande partie de la population comprend pas comment la science fonctionne. Ils savent pas c'est quoi exactement des données probantes, pourquoi c'est long aller chercher des données. Alors, parfois, c'est plus rassurant, même si ça semble étrange, de se faire dire, mais non, regardez, on a la réponse, il y a un complot, que de se faire dire, on le sait pas.
Ouais. C'est drôle parce que les Philippines, le pays, j'allais passer par Trump dans mon raisonnement, mais les Philippines, le pays où les thèses de complot sont presque à 50% de la population, ils ont un des leaders, les dirigeants les plus clownesques de la Terre, là.
J'ai pas étudié la situation dans chaque pays, mais c'est certain qu'il y a, plusieurs facteurs qui facilitent l'adhésion à ces thèses-là. Puis, entre autres, la confiance envers le gouvernement est un facteur important. On voit dans certains pays où l'adhésion aux thèses complotistes est le plus élevé, une grande méfiance envers le gouvernement, par exemple.
Mm-hmm. Ouais. Est-ce que vous avez regardé le phénomène? Parce que, il y a des gens qui vont être tentés par ces thèses-là. Mais ils écoutent encore l'information. Puis quand je dis l'information, c'est pas juste mes émissions puis mon poste qui est bon. Je veux dire, quelqu'un qui s'informe dans mon esprit, là, peut regarder plusieurs postes, plusieurs journaux, de la radio, changer de poste, aller voir ce qui se dit aux États-Unis, aller voir ce qui se dit en France. T'sais, s'informer, pour moi, c'est quelque chose de large, puis tu te fies pas à une seule source. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a même des gens qui n'ont plus accès jamais dans leur vie à aucune information. C'est-à-dire qu'ils sont sur des thèses complotistes fournies par des gens qui sont des bouffons qui travaillent à partir, mettons, d'un sous-sol aux États-Unis puis qui inventent des histoires puis tout ça. Mais ça devient leur seule source d'information. Et ça, tu dis, OK, donc eux ont plus aucune forme de connexion avec le réel. De toute façon, ils y croient pas, là, tu sais. Mais comment ta pensée se développe quand tu sais plus du tout ce qui se passe et que tu te fais entièrement alimenter par des fausses nouvelles?
Mais c'est un problème parce qu'on le voit, le fait de consommer les médias traditionnels, donc peu importe le radio, télé, journaux, d'aller aussi consulter les sources officielles des autorités, donc ceux qui vont sur les sites web ou les pages là des autorités comme l'OMS, Santé publique, sont ceux qui justement ont cet esprit critique qui semble plus développé là, puis adhèrent moins aux thèses conspirationnistes. Donc c'est un facteur important. Et les gens qui commencent à croire à ça, mais ils vont délaisser tranquillement ces médias-là parce qu'ils vont dire, on nous dit pas la vérité. Et là, quand on tombe dans l'engrenage, c'est facile de chercher des liens pour aller approuver quelque chose qu'on croit déjà. Donc, tous les éléments...
Non, parce que c'est quand même assez fort, les thèses conspirationnistes. C'est qu'on dit une absurdité, quelque chose qui a jamais existé ou qui a aucun fondement. Puis après ça, on dit, tu vas voir, ils en parleront pas à TVA. Parce qu'il t'a le cas. Puis là, t'écoutes TVA, mais effectivement, il n'en parle pas. Fait qu'un et un font deux.
et pendant ce temps-là, pendant qu'on va déplorer que les médias d'information n'en parlent pas parce qu'ils cachent la vérité, on va aller faire des liens qu'on va appeler des billets de confirmation entre différents éléments qui ont parfois rien à voir ensemble puis qui sont mis hors contexte. Pas nécessairement faux au départ, mais qui viennent faire une interprétation là, qui est tout à fait brouillée de la réalité. Et là, quand on embarque là-dedans, ça finit plus parce que les gens croient qu'ils ont trouvé la vérité, alors c'est très dur d'aller déconstruire ça, et ils vont avoir tendance à s'isoler, parce qu'ils veulent parler juste à ceux qui y croient, là.
Mais en fait, c'est très, très dur d'aller déconstruire ça, parce que je prends le cas extrême là, que j'ai vu, mais il y en a quand même plusieurs dans le dernier mois, mais les journalistes qui allaient dans cette manifestation, il y avait eu beaucoup plus de monde que prévu à Berlin, et là, tu avais toutes sortes de gens, il y en a qui étaient contre le masque, mais là, à un moment donné, t'en avais, qui étaient dans un mouvement où ils ne croyaient pas à Angela Merkel, ils disaient qu'elle n'existait pas. Qu'elle était une invention, puis tout ça, pour manipuler le monde. Puis là, tu te dis, OK, mais lui, là, tu fais quoi pour le convaincre? Qu'est-ce qui te reste à dire? Je veux dire, pour l'éduquer, pour le convaincre. Je veux dire, moi, le plus proche que j'aurais à le convaincre, ce serait de dire, ben moi, je crois pas que t'existes, toi non plus. Tu le mets à son propre test. Non, mais c'est parce que c'est, y a plus de débat possible, de discussion possible. Tu peux pas y arriver avec une pièce, un journal, un tableau, des chiffres, des données, puis dire, oh, attention, là, attention à l'interprétation des données. Tu sais, comme dans une discussion normale, tu peux convaincre quelqu'un, là, avec des éléments. Mais quand quelqu'un dit, moi, je crois plus à Angela Merkel, là, je crois pas qu'elle dirige l'Allemagne. Bon, qu'est-ce qu'il reste à dire?
Oui, puis j'ai entendu ça pour d'autres politiciens ailleurs. Hein. C'est pas, il est pas.
Ah oui, l'idée qu'un politicien n'existe pas. Là.
mais non, il y a un niveau d'adhésion où c'est pas ces personnes-là qu'il faut cibler en premier. Les personnes qu'il faut cibler puis qu'on peut faire changer d'idée, c'est ceux qui commencent à douter. Ceux qui disent, ah, peut-être que ça se peut finalement un lien, je sais pas moi, entre la 5G puis le COVID. Et là, on leur dit, ah, ben non, regardez, là, il manque de données probantes pour affirmer ça, telle information contredit. Donc, des personnes qui doutent, mais qui sont pas à fond dans les théories, c'est celles qu'on peut rejoindre le plus facilement. Ceux qui adhèrent à fond, mais un, ça donne rien de les ridiculiser, faut les écouter parce que sinon ils vont se braquer et fermer tout canal de communication. Mais ensuite de ça, ben, c'est un choix.
Mais ça, c'est très difficile.
Ouais.
Eux,
ils acceptent ou pas,
mais
là,
c'est quand même très continuer. Difficile de pas les ridiculiser parce que, tu sais, parce que c'est ridicule. Tu sais, c'est. Mais vous avez raison. Je sais que vous avez raison. Je m'obstine pas avec vous. Mais tu sais, quand quelqu'un te sort quelque chose, parce que des fois, quelqu'un te sort quelque chose, ça tient sur 5 phrases, puis chaque phrase, chaque mot est faux, là, c'est tout faux, tout est faux. Là. Tu dis, OK, comment est-ce qu'il a pu se faire mettre des patentes de même dans la tête, puis c'est sûr que la tentation, c'est de partir à rire.
Ah, je le comprends tout à fait, j'en reçois moi aussi de toutes sortes. Évidemment, quand on travaille sur ces sujets-là, on reçoit toutes sortes de messages, vous pouvez vous en douter. Mais c'est important d'écouter, même si c'est difficile. Puis, il y a plein de facteurs qui expliquent tout ça. Non seulement les gens qui commencent à adhérer à ça vont passer tellement de temps sur les réseaux sociaux puis chercher des preuves et se regrouper. Puis en plus, ben les algorithmes en ce moment favorisent ça aussi sur ces réseaux-là. Donc, c'est vraiment toutes sortes de facteurs qui vont faciliter cette adhésion-là.
Eh bien, Marie-Ève Carignan, merci beaucoup d'avoir été là.
Mais merci de l'invitation.
Au revoir. On s'arrête pour la pause.